Vous écoutez
RMC.
Laurent Payeur, Daniel Riolo, Jérôme Rotten, ils sont là, elle est là. Tout comme Paulo Breiter qui nous rejoint. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Un gros bisou alors.
Oh, Polo, il est
salut
en forme.
Salut Polo.
Ah non, mais attends, Polo, il est en forme parce qu'il y a le quiz ce soir. On va bah, démolir les enfants.
Je te laisse la première manche, mon cher Gilbert. Nous sommes à l'extérieur. Je te laisse.
On est chez nous ce soir.
On joue. Ah non, on m'a dit qu'on était à l'extérieur.
Non, non, tu sais quoi, Julien veut qu'on joue à Francfort. Je lui dis non, mets-nous au moins à Stuttgart, pas à Francfort, s'il te plaît. Alors, avant le quiz, on va parler dans nos after stories avec toi ce soir du célèbre FC Hollywood. Donc, les grandes années de n'importe nawak du Bayern. Voilà. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, déjà à quelle époque exactement, et pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, on l'appelait le Bayern le FC Hollywood?
Ben, en fait, le FC Hollywood est arrivé médiatiquement parce qu'on appelait le Bayern à l'époque une dream team. On pensait qu'ils allaient tout écraser. Alors, c'est exactement... Il y a une vraie période, en fait. Hein, c'est la période, en gros, 95-2004. C'est ça, la période du FC Hollywood. Et la période 95-96, c'est l'arrivée d'Otto Rehagel au Bayern Munich qui venait de passer 14 ans à Brême et qui devait tout casser avec l'équipe qu'il avait. Je voudrais juste rappeler un petit peu pourquoi est-ce qu'on appelait la dream team. C'est qu'à l'époque, il y avait, par exemple, Elmer, Babel, Nerlinger, Strunz, Matthäus, Hamann, Sforza, Sutter, les Suisses, Tigue, Scholl, Otto Rehagel avait ramené l'Autrichien Herzog avec lui, il y avait Klinsmann devant, Kostadinov, que connaissent bien les Français, Jean-Pierre Papin et Tsikler, tu vois, mais c'était un peu l'équipe.
C'est daté en chronologie, la
exactement.
Période, on peut dire ça, c'est la, quoi alors?
Là où le parti de l'FC Hollywood, c'est la saison 95-96 où ça va exploser complètement au Bayern.
Où ils gagnent la Coupe UEFA quand même.
Ils vont gagner la Coupe de l'UEFA en faisant.
Ouais.
Voilà, en faisant une saloperie, excusez-moi, à Otto Rehagel, puisqu'ils vont le virer quelques jours avant la finale de l'UEFA. C'est Beckenbauer qui était président à l'époque, qui va reprendre l'équipe en main. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette époque? En fait, il y a Otto Rehagel, il arrive. Bon, déjà, il a gagné, rappelez-vous, la Coupe des Coupes avec le Werder contre Monaco en 92. Vous savez, quelques jours après le drame de Furiani, il avait gagné deux titres avec le Werder, des Coupes d'Allemagne, etc. Et donc, on pense que ça va bien se passer. Lui, il arrive avec un mégaphone, déjà pour la première séance d'entraînement. Il engueule tout le monde. Il est à l'entraînement et il a oublié quelque chose, c'est qu'il est plus au Werder, il est au Bayern où il y a que des stars ou des stars en devenir. Et là, en fait, lui, on se rend compte qu'au Werder, il était plus en train de former encore des joueurs et non pas de s'occuper de vraies stars qui sont sur le terrain. N'oublions pas le contexte de l'époque. C'est le Borussia Dortmund qui domine la Bundesliga, champion en 95, champion en 96, victorieux de la Ligue des Champions en 97. Et donc le Bayern Munich est dans une période un petit peu compliquée au niveau des résultats. Ils en ont beaucoup moins que ce qu'ils avaient fait à partir, on va dire, de la milieu des années 80 où ils raflaient quasiment le championnat chaque année. En fait, ça va exploser très rapidement. Mehmet Scholl, en fait, ça se passe très bien au début. Hein. 7 victoires à la suite, on pense que le championnat est déjà, la Bundesliga est pour, etc. Mehmet Scholl va faire une interview dans le journal Kicker où il va défoncer Otto Rehagel en lui faisant comprendre que c'est lui ou c'est moi, parce que de toute façon, depuis qu'il est là, on n'a toujours pas de tactique sur le terrain, etc. Jean-Pierre Papin sera aussi un petit peu dans le même cas de figure, parce qu'Otto Rehagel le ne voulait pas. Il voulait dégager Papin pour récupérer son joueur, un défenseur central, un certain Jürgen Kohler. Et donc, très rapidement, il va y avoir une ambiance désagréable qui va se passer. Tout le monde va s'exprimer, etc. À tel point que Beckenbauer, ils vont être forcés de dégager Otto Rehagel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et lui, il va prendre la place. Ce qui est important, c'est que donc ça, c'est le début officiel, si vous voulez, du FC Hollywood, alors qu'on départ dans la presse, on parlait de Dream Team, hein, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'était les Jeux Olympiques aux États-Unis en 92, hein, qu'on appelait les Américains au basket, si je me rappelle bien. Hein. Et donc, c'est ça ce qui va se passer. Mais surtout, après, il y a des personnages, puisqu'on va commencer à parler de soap opéra. Donc, tous les médias vont arriver, notamment le journal Bild. Et il va y avoir certaines personnes. Évidemment, Lothar Matthäus, qui était un leader, qui donne son avis sur tout, qui avait un caractère très particulier, un petit peu militariste. Et en fait, on pense que beaucoup de personnes, bon, moi, pensent que c'est surtout un idiot fini.
C'est là que Lizarazu lui met une baffe?
Alors ça, c'est plus tard. Lizarazu va arriver en 97 et il lui mettra une baffe en 99. Mais ça, c'est une chose qu'on connaît chez nous. Mais si tu veux, quasiment chaque semaine, il y a des pains qui s'échangent à l'entraînement, notamment entre Linke et Koufour. Vous vous rappelez qu'ils vont gagner la Ligue des Champions en 2001.
Il va avoir envie d'aller l'affronter avec
Koufour.
Si vous voulez, il y a des joueurs emblématiques qui vont passer, comme Mario Basler, qui était un joueur magnifique, évidemment, qui lui aussi avait un caractère très particulier. Il était surtout grand amateur de Klopp et de caisses de bière. Donc, si tu veux, il y avait Oliver Kahn,
en
évidemment.
Allemand, il y avait Mario Basler.
Voilà. Qui avait évidemment une frappe de balle assez extraordinaire. Ah bah ouais, il y avait Oliver Kahn et sa célèbre maxime Higher, wir brauchen higher, les couilles, nous avons besoin de couilles. Merci pour le football féminin. Il y a évidemment Jürgen Klinsmann qui aimait tout le monde, surtout sa grande personne, hein, qui ne supportait pas Matthäus, qui lui rentrait très bien. Et puis il y a Stefan Effenberg, qui était évidemment celui, la nouvelle génération entre guillemets, qui voulait prendre la place de Matthäus, le fameux Light Wolf.
Attends, j'ai plein de questions avec Effenberg.
Non, mais parce que là, Stefan Effenberg, il se fait exclure de la Coupe du Monde 94 parce qu'il fait un doigt d'honneur à tout le monde, au public notamment. Il a un avis sur tout, surtout sur les chômeurs, etc. Et il a une spécialité, c'est de piquer les femmes des autres. Il va piquer la femme de son collègue en équipe nationale et au Bayern, le fameux Thomas Strunz. Stefan Effenberg, le tigre, surnommé le tigre évidemment, l'expliquera très bien dans son autobiographie où il dira de toute façon son couple battait de l'aile, lui il trompait sa femme avec quelqu'un d'autre, donc je me suis servi. Donc voilà. Donc c'est, si vous voulez, c'est cette ambiance-là.
C'est génial.
Voilà. Et alors, cette période est fabuleuse parce que il y a quand même un entraîneur italien qui va arriver, qui va exploser les plombs complètement en 1998 après une défaite à Schalke. C'est la fameuse conférence de presse de du Trapp, évidemment, qui est mythique.
On l'a. Un petit extrait, allez, pour se marrer. Rappelez-vous, parce que ceux qui n'ont pas vécu ça, en fait, Trapattoni devant une forêt de micro, et là, il pète littéralement un plomb en allemand avec accent italien. On y va.
Es gibt keine deutsche Mannschaft spielt offensiv oder dynamisch offensiv wie Bayern. Sicher ist ein Spitzen mehr Mehmet und mehr Basler. Offensiv ist wie machen wir im Platz. Zweite, ich habe erklärt mit diesen zwei Spielern.
Voilà, donc en gros il allume Scholl
Attends, c'est super intéressant, c'est dommage, on aurait pu l'avoir un petit peu plus long. Il pète les plombs en fait complètement,
mais bon, comme
il
ça tout en allemand, ça, tu veux, je vais pas comprendre 100 000
non mais c'est justement c'est mais c'est comme ça, et puis d'un coup ça explose c'est ça qu'il faut écouter.
Ça monte en puissance, mais ça dure 5 minutes.
Il faut juste trouver le passage de la du calme à la folie, c'est génial.
Alors ce qui est génial, c'est que Trapattoni ne parle pas parfaitement l'allemand, donc en fait c'est des nix à chaque fois dans ses phrases où il faut décrypter ce qu'il veut dire, parce que il fait comprendre qu'il n'est pas le père des joueurs, en fait, non, l'entraîneur, excusez-moi, que Strunz est toujours blessé, mais il ouvre tout le temps, etc., etc. Donc il allume tous les joueurs, et que ces joueurs, il fait comprendre que le Bayern, en fait, tous ces joueurs-là se croient des stars, mais pourquoi est-ce que le football italien, qui était le meilleur à l'époque d'Europe, ne les achète pas? C'est parce que c'est des daubes, c'est tout, en gros, c'est ce qu'il veut dire dans sa conférence de presse. Et à la fin, il fait quelque chose d'extraordinaire, il dit quelque chose que n'importe quelle personne qui parle pas parfaitement l'allemand le dirait. Il dit, ich habe fertig, qui est une traduction littérale, c'est j'ai fini, mais en fait, en allemand, ça veut dire je suis fini. C'est-à-dire que l'entraîneur, en gros, il se tire une balle dans le pied, c'est fini pour lui. C'est un truc extraordinaire.
Alors, en fait, il voulait juste dire, j'ai fini ma conférence de presse, je me taille.
Voilà. Mais en fait, c'est pas ça. Et puis, il revient après, je sais pas si vous avez jusqu'à la fin, il revient après, ben il dit, si vous voulez, je peux vous répéter ce que je viens de dire, pour que vous compreniez bien et tout ça. Donc, c'est cette période qui est assez extraordinaire. Ensuite, après Trapattoni, va arriver Otmar Hitzfeld, qui lui, évidemment, avait gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 97. On sait qu'il le remporte en 80, ce qui va être forcé de faire la police d'une façon extraordinaire, parce que il parle d'asile d'aliénés quand même de son équipe, et il va finir épuisé lors de sa première période entre 98 et 2004. Il va finir épuisé à tel point qu'on pense qu'il va faire une dépression et il va refuser la sélection allemande tellement il n'en peut plus, pour aller se reposer notamment en Suisse. Il reviendra plus tard. Donc c'est un peu ça, si tu veux, cette période. Mais je voudrais juste finir là-dessus.
Vas-y.
Ce n'est pas qu'un problème de joueurs, c'est aussi un problème dans les bureaux, parce que Uli Hoeness s'engueule avec tous les supporters parce qu'il y a les VIP qui arrivent, alors ça fait une moins bonne ambiance dans les stades, donc il s'engueule avec les ultras, il les traite de tous les noms. Il y a le fameux président Franz Beckenbauer, double ballon d'or, qui officialise qu'il a un fils illégitime parce qu'il s'est amusé avec la secrétaire du coin. Il y a Karl-Heinz Rummenigge à l'époque, qui passe des contrats de son côté en disant mais non, on gagne trop d'argent, alors que lui, le mec avec les médias, il passe des contrats pour raconter tout ce qui se passe. C'est un peu cette période-là qui est assez extraordinaire. On en parle toujours aujourd'hui du FC Hollywood, parce que par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, Lam et Robben à l'entraînement, ou alors les pains qui avaient échangé Ribéry avec Robben dans le vestiaire, ça fait toujours rappeler le FC Hollywood. Ça s'est un peu calmé maintenant, mais ça fait partie de l'histoire, je trouve, mythique de ce club.
Ouais, franchement, c'est vrai que c'était extraordinaire. Moi, je me souviens de l'after n'existait pas encore. Bon, ce serait bien marré quand même.
C'était fou.
Il a quoi, Polo, c'était à un moment quand je voulais te couper, c'est pour parler de Matthäus. Il a quoi comme image? Parce que c'est un palmarès monstrueux du football allemand. C'est quoi son image à ce mec-là? Parce que ballon d'or, bah, coupe du monde, enfin, il lui manque rien, quoi, ce type.
Bah ouais, sauf que c'est toujours pareil entre le joueur qu'il était, son côté très militariste ou militarisant, d'insulter tout le monde, de gueuler après les Néerlandais, de gueuler après toutes les autres sélections en faisant comprendre qu'ils étaient rien du tout et que eux, c'était l'Allemagne. Il y a un côté au passage très conservateur dans ses prises de parole. C'est quelqu'un au passage qui, rappelons-le, Ulionès dira que tant que Matthäus, tant que lui, Ulionès sera au Bayern Munich, Matthäus ne sera jamais même balayeur à l'époque de l'Olympiastadion, donc du stade. C'est Matthäus, c'est quelqu'un il fait partie, pour ça que parfois je vous parle de l'ADN du football allemand, il fait partie de ceux qui ont gagné. Je sais qu'en Italie, lorsqu'il était à l'Inter, on le surnommait Il Panzer. Donc ça veut quand même dire quelque chose de bien particulier. Mais c'est quelqu'un, moi je l'ai rencontré il y a quelques années, hein, j'ai discuté avec lui. Il est toujours une fois dans une forme de compétition, si tu veux, et c'est quelqu'un, honnêtement, j'ai pas l'impression d'apprendre grand chose, quoi. Donc c'est un monstrueux joueur, c'est le fou. Il a été, nous rappelons-le, champion d'Europe en 1980, déjà, et le mec, il finit à l'Euro 2000, quand même. Donc c'est quasiment deux décennies, il se tape Zamer, etc. Mais c'est un type, il est imbuvable, quoi. Et il est surtout très mauvais entraîneur aujourd'hui, et enfin, il a toujours été très mauvais entraîneur, et il sait faire qu'une seule chose, c'est jouer au foot. Le reste, c'est les explications, enfin, c'est bidon, quoi. Et c'est un joueur, il fait partie des plus grands joueurs allemands. Quoi,
ben attends, et juste pendant la période, combien de titres? Parce que malgré le bordel, ils gagnaient quand même.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils vont gagner.
Donc ils vont rater 96. Ils vont gagner quand même la coupe de l'UEFA en 96. Ils vont gagner cette fameuse Ligue des Champions en 2001. Rappelez-vous contre Valence. Ils vont perdre celle de 99. Rappelez-vous, c'est Manchester United.
Oui, bon, ils n'ont pas beaucoup oublié celle-là quand même. Hein, tu sais.
Non, mais c'est important parce que
elles sont quand même importantes.
C'est un truc que les Allemands et les Néerlandais ont en commun, c'est qu'ils sont capables de se détester mais de gagner quand même ensemble.
Ah oui, c'était dingue à l'époque. Ils ont gagné les championnats. Je fais ça de mémoire. En 97, ils gagnent le championnat, c'est avec Trapattoni. Ensuite, 99, 2000, 2001, ils gagnent la Bundesliga, c'est déjà avec Hitzfeld. 2002, non, ils doivent gagner en 2003, pas 2004. Donc c'est ça, en gros, cette période. Et puis il y a des coupes d'Allemagne, si je me rappelle bien.
Bon. Bah écoute Polo, merci de nous avoir rappelé ça, c'était top. Et le FC Hollywood, voilà, que vous retrouvez sur la page Facebook de Polo. Hein. Je fais toujours la pub, mais ça vaut le coup d'y aller.
Ah oui.
Dans quelques instants, Polo, t'es prêt?
Non.
Laure, t'es pas prête, bien sûr.
Mais je te pardonnerai pas de perdre contre l'anglais quand même.
Oh là là. On est à deux, là. On est une équipe, bon, donc on se soutient.
Les Anglais, t'imagines si les Anglais gagnent en Allemagne comme ça?
Calme-toi, toi.